besoin de chercher les problèmes.
Qu'est-ce que tu dis?
On n'a pas besoin de chercher les problèmes.
C'est eux qui vous trouvent, hein?
Toute notre vie est un problème.
Et à qui la faute, tu crois?
Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairois. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère.
Il faut travailler à réduire globalement la violence qui reste invisible, en tout cas à partir des lieux centraux ou dominants, celle qui s'exerce au jour le jour, pêle-mêle, dans les familles, les usines, les ateliers, les commissariats, les prisons, ou même les hôpitaux et les écoles, et qui est le produit de la violence inerte des structures économiques et sociales et des mécanismes impitoyables qui contribuent à les reproduire.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours branchés sur le 102.2 d'une radio rebelle, insoumise, et puisque c'est Radio Canu, ou sur radiocanu.org, et donc il est l'heure de Angle Mort, émission de critique d'expérimentation sociale. Et au menu de ce soir, pourquoi je fais menu de ce soir, on vous a contacté avec Natacha, une petite lecture d'un texte qui nous a, ma foi, bien intéressé, issu du site internet terraindelutte.ouvaton.org, donc terrain de lutte au pluriel et tout attaché .ouvaton.org, qui est en fait un site internet très bien fait, où on y trouve des informations, des enquêtes, des réflexions critiques, qui hébergent aussi des chroniques d'auteurs comme Accardo, Alain Accardo, Jean-Pierre Garnier, etc., donc les auteurs d'Agone, et qui se donne pour objectif, ce site, de donner à voir la situation des classes populaires et de comprendre les stratégies des classes dominantes. Donc on y trouve, je disais, des entretiens, des récits, des analyses de grève, des reportages vidéo, etc. Et c'est un site qui est animé par des syndicalistes CGT, Solidaires, FSU, des militants associatifs ou politiques, Front de Gauche, NPA, Alternative Libertaire, et des chercheurs, chercheuses en sciences sociales. Donc un site très bien fait, on y trouve plein de choses, et le texte qu'on voulait lire, donc il est issu de ce site, c'est un texte de Patrick Ngolin et Emily Wright, intitulé « L'Institut supérieur du travail ou le syndicalisme expliqué au patronat ». Et avant de commencer la lecture de ce texte avec Natacha, on se fait une première pause musicale histoire de finir de s'installer. Donc, Angle Mort, Radio Canu.
À la moindre occasion, car à la base, ma peau n'est pas douée pour la métamorphose.
Je cherche l'angle mort. Je cherche l'angle mort.
C'est l'émission Angle Mort, il est dimanche et on vient de s'écouter Les Vieux Allemands des Wampas.
C'est ça.
Voilà, une programmation musicale joyeuse.
Bah oui, ça change.
Et judicieuse.
N'est-ce pas?
Voilà, donc ce soir, comme l'annonçait Eric, on va vous proposer la lecture d'un article consacré à l'Institut supérieur du travail. Encore récemment, avec les mouvements de grève des pilotes Air France, on a eu droit à leurs fines analyses. Dans la presse de droite, dans C'est dans l'air ou sur BFM TV, les analystes de l'Institut supérieur du travail sont omniprésents.
Avec un nom pareil, on pourrait s'attendre à trouver derrière les portes de cet institut de gentils universitaires à lunettes ou d'anciens syndicalistes archivant minutieusement les traces du mouvement ouvrier. Mais loin de tout cela, l'IST, Institut supérieur du travail, est une officine patronale issue de la collaboration et de l'anticommunisme. Ce n'est pas un hasard si le nom de l'Institut supérieur du travail rappelle celui de l'un des centres de formation de la CGT de l'entre-deux-guerres, l'Institut supérieur ouvrier. C'est dans le cadre du Centre confédéral d'éducation ouvrière que le futur fondateur de l'Institut supérieur du travail, Guy Lemonnier, alias Claude Armel, rencontre deux jeunes militants socialistes, pacifistes et comme lui professeurs, qu'il ne cessera de côtoyer au cours de sa longue carrière. Le premier, Georges Lefranc, se fera un nom comme historien du mouvement ouvrier. Le second, Georges Albertini, deviendra une éminence grise très écoutée sous la 4e et 5e République et surtout le grand Manitou de l'anticommunisme en France.
Le bon vieux temps des années 1940. Ces syndicalistes réformistes sont alors proches de Syndicat, le courant anticommuniste de la CGT qu'anime René Belin, nommé ministre du Travail par le maréchal Pétain. On lui doit notamment la charte du travail qui conduit à la dissolution des confédérations syndicales. Sur le plan économique, ce sont des partisans du planisme, une sorte de troisième voie entre collectivisme et libéralisme. Croyant en un socialisme national, ils se la rallieront sans peine à Vichy, jusqu'à, pour certains, devenir pro-nazis. Georges Albertini seconde ainsi Marcel Déat, un autre ex-socialiste, au sein du Rassemblement National Populaire, le RNP, un parti collaborationniste et, cela va sans dire, farouchement antisémite. Claude Armel est l'un de ses plus proches collaborateurs. Tous deux se vouent une admiration réciproque, Albertini allant jusqu'à considérer que Armel vaut intellectuellement bien davantage que Marcel Déat. À la libération, les deux compères sont incarcérés à Fresnes pour intelligence avec l'ennemi. Après avoir été gracié, Albertini trouve rapidement comment se relancer en politique. Avec le soutien de riches patrons du groupe des industries métallurgiques de la région parisienne, il s'investit dans l'anticommunisme systématique. Fichage de militants, financement de campagnes électorales, pression sur les pouvoirs publics. Fini le dirigisme, hein, désormais pour Albertini et ses amis, ce sera le libéralisme à tout craint. Claude Armel est de tous ses combats. Il participe activement à la rédaction du Bulletin d'études et d'informations politiques internationales, qui devient Est-Ouest en 1956. Son sujet de prédilection, dénoncer la mainmise du Parti communiste sur la CGT, notamment au travers d'une feuille hebdomadaire, Les études sociales et syndicales, qui publiera 310 numéros entre 1955 et 82. À la fin des années 60, Armel commence à voler de ses propres ailes, toujours sous le regard bienveillant d'Albertini. Tandis que ce dernier conseille les princes, notamment Georges Pompidou, Armel veut mener la lutte directement dans les entreprises. Il donne des cours à la faculté autonome et co-gérée d'économie et de droit, la FACO, créée en 1968 après la fermeture de la faculté de droit de l'Institut catholique de Paris. À sa tête, un autre transfuge de la CGT, Achille Dauphin-Meunier, passé par Vichy, converti au néolibéralisme et à la doctrine sociale de l'Église. C'est sur ses conseils et avec l'appui de Georges Lefranc que Claude Armel crée l'Institut supérieur du travail, donc l'IST, entre 1969 et 1971, selon les sources. Avec la reconnaissance en 1968 des sections syndicales en entreprise, puis la loi sur la formation professionnelle votée en 1971, il y avait un filon exploité. La demande patronale explose. Le PDG de Péchinet est le premier à solliciter les services de Claude Armel pour ses cadres. « Expliquez-leur ce que c'est », lui a-t-il dit. Guy Lemonnier a fait alors une cinquantaine de conférences sur l'histoire et les méthodes syndicales, notamment sur l'usage que les syndicats font des droits qui leur sont accordés. L'objectif était clair, connaître son ennemi, afin d'éviter de faire des conneries. Les clients se bousculent au portillon. Aérospatial, Air France, Total, Les Houillards du Nord, Péchinet, Prise Unique, Thomson, Usinor, Vallourec, etc. Donc là-dessus, on peut renvoyer, enfin les auteurs renvoient à un article de Charpier qui s'appelle « De l'extrême droite au patronat, Madeleine Devedjian, Longuet et les autres » et qui est publié dans un livre collectif de Colomba et Servenay, « Histoire secrète du patronat de 1945 à nos jours ». Au menu, des formations dispensées pour la modique somme de 2000 francs, donc l'équivalent de 2000 euros d'aujourd'hui, on a méthodologie de l'action syndicale d'inspiration marxiste-léniniste, la courroie de transmission CGT-PCF, la politique d'action de la CGT, procédé d'organisation de la CGT, formation syndicale, la propagande, analyse d'un film de propagande, procédé d'action dans l'entreprise, l'action fractionnelle, des revendications aux véritables objectifs, différents moyens d'influence. Sans surprise, avec ses parrains passés du collaborationnisme à l'anticommunisme et un financement massif du patronat, l'IST, donc l'Institut supérieur du travail, se positionne d'emblée sur le terrain de la lutte contre le syndicalisme d'inspiration communiste. Mais c'est dans les années 1970 que les réseaux Albertini vont donner toutes leurs mesures avec des jeunes recrues comme Alain Madelin, Xavier Roffert ou encore Hervé Novelli, formés dans les groupuscules fascisants Occident ou plus tard Ordre Nouveau. Parmi les faits d'armes de cette jeune équipe de barbouze, financée par l'UMM, donc l'UMM c'est une fédération patronale hein, qui regroupe les principales entreprises de la branche de la métallurgie, donc financée par l'UMM et en lien avec les services de renseignement, figure alors l'impression en masse de brochures, donc cette jeune équipe de barbouze, hein, qu'est-ce qu'ils font ? Ils impriment en masse des brochures contre les ouvriers en lutte de l'IP, ou encore la diffusion de faux journaux préfigurant ce qui se passerait si le rouge Mitterrand arrivait au pouvoir. C'est Xavier Roffert, de son vrai nom Christian Bourguin, qui fait office alors de secrétaire général de l'IST. Une vitrine aujourd'hui respectable, et bien ça, vous le saurez après une pause musicale, donc émission Angle Mort sur Radio Canu.
Non, vraiment, vous êtes super, je vous aime.
Ouais, je sais.
Voyez, ce pauvre type est complètement dans le vrai. Oui, j'adore bosser avec moi. Et je vais même vous dire un truc qui va vraiment vous étonner. Je mets la barre tellement haut que parfois même moi je m'impressionne. C'est complètement hallucinant. En fait, je m'impose un tel contrôle qualité que je suis arrivé à un niveau de zéro défaut. Bref, je suis un excellent produit.
One, two, one, two, three.
À l'écoute de l'émission Angle Mort, émission de critique sociale sur Radio Canu. On vient de s'écouter à l'instant Bread and Roses avec le titre Dumb the Bosses of Your Back, c'est-à-dire vire le patron qui est sur ton dos.
Ah. Très bien.
À toi.
Oui, donc on poursuit la lecture d'un article consacré à l'Institut supérieur du travail. Donc on se demandait avant la pause musicale si l'Institut supérieur du travail, dont on a vu les origines dans la collaboration et sous inspiration anticommunisme, si aujourd'hui l'Institut supérieur du travail était une vitrine aujourd'hui respectable. Alors tout ça c'est du passé, nous direz-vous. Les années 70 sont loin, Alain Madelin et Hervé Novelli, longtemps responsables de la bibliothèque de l'Institut supérieur du travail où l'on pouvait croiser quelques fachos identitaires essayant d'apprendre à lire, sont devenus depuis ministres. De son côté, Xavier Hofer s'est reconverti en expert sur l'insécurité. Et l'Institut lui-même a su en partie faire oublier l'histoire tumultueuse de ses fondateurs peu recommandables. Les relations avec la nébuleuse Albertini se sont tout de même maintenues longtemps. Si Claude Armel quitte la direction de l'IST en 83, année de la mort d'Albertini, il reprend dès décembre 84 la rédaction des études sociales et syndicales, désormais publiée par l'IST. À partir de janvier 1985, l'officine lance un nouveau périodique, les dossiers de l'IST, dont le directeur de publication se fait appeler Morvan Duhamel. De son vrai nom, Maurice Bourgeot, Morvan Duhamel multiplie les pseudonymes aussi divers que Paul Binic, Gilles Bréat, Gilles Guirec et Yves Jocelli. Sous ces noms, c'est l'auteur d'une quarantaine de romans d'espionnage. À croire qu'il connaît bien ces milieux-là. Mais Morvan Duhamel, c'est également un ancien des jeunesses nationales populaires du RNP. Le RNP, on se souvient, c'est le Rassemblement National Populaire dans lequel on trouve EDA.
Donc un parti collaborationniste pendant la guerre.
Voilà. Donc Morvan Duhamel, c'est également un ancien des jeunesses nationalistes populaires du RNP, qui fréquente Georges Albertini depuis qu'il a l'âge de 16 ans. À l'époque, les anciens collabos se réunissaient dans l'appartement de sa mère. Invité permanent de BFM Business et du Figaro, les dirigeants de l'IST, pour Institut supérieur du travail, d'aujourd'hui savent se glisser dans les oripeaux rassurants d'un observatoire neutre, entre guillemets, du mouvement syndical. Qu'un mouvement de grève surgisse et les voilà tout disposés à produire un discours valorisant l'ensemble des syndicats de cogestion. Le plus souvent, ces animateurs se contentent en public de diffuser une parole libérale. Comme par exemple en décembre 1995 avec ce cycle de conférences passionnant intitulé « Résilier au mieux un contrat de travail ». Certains enseignent même à l'université, à l'instar de la directrice des études sociales de l'Institut supérieur du travail, Stéphanie Lecoq. Et pourtant, chasser le naturel réactionnaire ou anticommuniste et voilà qu'il revient au galop. Dites le mot CGT et Bernard Vivier, jeune recrue des années 80 et actuel directeur de l'IST, ne peut que vanter les mérites de ses devanciers. Claude Armel et les études sociales et syndicales ont depuis longtemps démontré cet assujettissement de la CGT au Parti communiste. Je citais Bernard Vivier, donc l'actuel directeur de l'Institut supérieur du travail. Et quand Bernard Vivier publie un libelle intitulé « Les ressources financières de la CGT » en 86, devinez qui se cache derrière le pseudonyme de son co-auteur René Milon. Claude Armel, évidemment. Bref, les noms changent, mais sur le fond, rien ne change. Alors, cher patron d'aujourd'hui, comment l'IST pourrait-il vous rendre service ?
Eh bien ça, vous le saurez après une nouvelle pause musicale sur Radio Canu.
Ou pas.
Sa foire. Ta la ta ta.
Ben voilà.
Waiting for a guy to come and take me by the hand.
Flashing cars are crashing, getting frequent now. I've got the spirit, lose a feeling, let it out somehow.
D'Angle Mort sur Radio Canu. On vient de s'écouter en guise de pause musicale Joy Division avec Disorder.
Et en fond, Bernard Tapie.
Le rouge.
Ouais.
Bernard Tapie le rouge qui a su réussir sa vie. Et on continue la lecture de cet article donc sur l'Institut supérieur du travail. Et on se demandait notamment, cher patron d'aujourd'hui, bah, comment cet Institut supérieur du travail va-t-il vous rendre service ?
Alors tout d'abord par des formations pour comprendre la, entre guillemets, psychologie et le comportement du militant CGT. Fermez les guillemets. Imaginez que vos cadres soient un petit peu timides et baissent les yeux devant le représentant du personnel. Rassurez-vous, l'IST propose des formations pour leur remonter le moral et leur apprendre quelques mécanismes d'autodéfense patronale. Inscrivez-les par exemple à ce stage de... Inscrivez-les par exemple à ce stage de 6 jours consacré aux, entre guillemets, orientations et méthodes de l'action syndicale dans l'entreprise. Ils vous reviendront tels des guerriers du libéralisme, prêts à pourfendre toute velléité du mouvement social. Plus de 1500 dirigeants d'entreprise, la liste figure sur le site de l'Institut supérieur du travail, ont d'ailleurs déjà suivi ce magnifique programme vous apprenant à différencier le syndicalisme de rupture du syndicalisme prêt à collaborer. Pour seulement 2 800 €, votre cadre sera également capable de tourner le langage des relations sociales, de parler le langage des relations sociales, et sera ainsi mieux armé pour conduire votre futur plan social. S'il est disponible, Bernard Vivier, donc l'actuel directeur de l'Institut supérieur du travail, donc s'il est disponible, Bernard Vivier pourra même se déplacer en personne, comme lors de cette conférence du 22 septembre 2011 donnée au patron de l'UIMM du Languedoc-Roussillon. Il vous expliquera alors les différences qui traversent la galaxie des désobéisseurs. Alors, pour la suite de la lecture, Eric vous lira en fait les passages du PowerPoint de présentation, de la formation. En effet, selon Bernard Vivier, d'un côté, il y a le militant CGT, cet être un peu bestial pour qui...
La négociation est l'expression d'un rapport de force.
Sans doute des restes de marxisme que l'on peut relier à...
Cette influence de militants du PCF et de militants trotskistes.
On a un peu le même problème avec les militants de Sud, partisans d'une véritable...
Guérilla juridique et concession zéro qui a permis le développement de spécialistes performants en droit du travail parmi les militants.
Avec ces foutus syndicalistes de Sud, on ne peut pas faire grand-chose. Ils se pensent comme des
opposants et non des partenaires sociaux.
En revanche, du côté de la CFDT, c'est déjà plus jouable, car ces syndicalistes veulent généralement
transformer la réalité par la voie du contrat et dialogue social.
Parlez-leur.
Sécurisation des parcours professionnels.
Ou
formation professionnelle.
Et surtout, profiter de leur
culture développée de la négociation.
Mais attention, le militant CFDT varie.
Son comportement est très variable selon les époques, les régions, les cultures professionnelles.
Et il arrive même souvent que
les équipes militantes soient autonomes par rapport à l'appareil syndical.
Ah, attention, c'est aussi un peu le cas avec FO. Car si
les militants sont ouverts à la négociation.
On déplore encore
dans certaines UD, certaines fédérations et à l'échelon confédéral, quelques tendances trotskistes.
Oui, Bernard Vivier a raison. Il faut toujours se méfier de certains îlots lambertistes. Non, franchement, le mieux, c'est lorsqu'on a sous la main des militants de la CFE-CGC. Eux, au moins,
ont le sens de l'entreprise et de ses exigences.
Ils savent qui est le boss et sont mus
par cette volonté de participer aux décisions sans chercher à transformer le pouvoir hiérarchique.
Ah, eux, ils sont bien.
Ils sont cool.
En proposant une cartographie du monde syndical, les cadres de l'Institut supérieur du travail produisent un savoir directement orienté vers la caste d'un syndicalisme de lutte. Pour ce faire, ils décortiquent les différentes traditions syndicales et leur façon d'organiser les salariés. Ils forment aussi les DRH à opposer aux représentants du personnel la novlangue du management. Poursuivons la lecture d'un article consacré à l'Institut supérieur du travail. On vous disait avant la pause musicale que cet institut, forme aussi les DRH à opposer aux représentants du personnel la novlangue du management. Donc on ne dira pas licenciement et restructuration, mais bien
accompagnement du changement.
Ouais, ça fait rêver. Si vous achetez de nouvelles machines et envisagez de licencier une partie de vos employés,
ça arrive.
Ça arrive. L'IST peut aussi vous aider.
Peut-être aurez-vous un jour la chance de croiser lors d'une formation de l'IST Jean-Luc Vergne, ancien DRH de Sanofi, Elf Aquitaine ou encore PSA Peugeot Citroën. Son aide vous sera précieuse. L'homme a de l'expérience. Alors, pour la suite, tous les passages qui seront lus par Eric sont issus d'un papier du dit Jean-Luc Vergne.
Qui est publié sur le site de l'IST, du coup.
Tout à fait. Donc Jean-Luc Vergne vous expliquera que dans une entreprise, il y a toujours...
plusieurs formes de résistance.
C'est navrant, mais c'est ainsi.
Toute transformation crée des incertitudes, casse des habitudes et remet en cause les conforts acquis. Des résistances émergent quasiment toujours, prenant des formes variées selon les individus et les groupes. Inertie, zèle, discussion et ratiocination sans fin, rébellion et ou grève, sabotage et macadam, démotivation, etc.
Rien que de très normal. Lorsqu'il s'agit...
des hommes et des femmes de l'entreprise, les réactions de ces humains peuvent être imprévisibles.
Mais ne vous inquiétez pas. Pour commencer, menez un audit en faisant appel à des consultants. Une fois l'audit terminé, mettez-vous à genoux et tendez l'oreille vers le haut, car...
c'est au président qu'il incombe de bien définir la stratégie, de dessiner une vision claire de l'avenir et de définir ce que l'organisation a à gagner.
Alors seulement, vous pourrez vraiment commencer à manœuvrer le changement. La première étape est de faire en sorte que les salariés...
s'approprient la solution retenue.
Puis il vous faudra...
communiquer, communiquer, communiquer.
Ensuite, veillez à ce que le middle management, un mot moderne pour dire contremaître, relaie bien votre message. Enfin, croisez les doigts et, ah oui, un dernier point.
Veillez à ne pas attenter à la santé des collaborateurs. C'est élémentaire, bien sûr, mais cela va mieux en le disant.
Si un conflit social éclate, alors que vous appliquez ainsi unilatéralement la solution du patron, Jean-Luc peut aussi vous aider à négocier. Pour ce faire, il vous conseille de vous demander en permanence.
Comment les organisations syndicales se positionnent entre elles dans l'entreprise ?
Y a-t-il
des conflits de leaders ?
Ou des
problèmes de représentativité ?
Car voilà autant de failles potentielles qu'il faudra savoir exploiter. Rencontrez vos syndicalistes individuellement. Ce travail de couloir est fondamental. Puis le jour J, lors de la rencontre, patientez car chaque syndicaliste va prendre la parole pendant 10 minutes.
C'est un tour de chauffe qui permet à chacun de se mettre en train. Ces déclarations permettent à chaque syndicat de marquer son territoire et de se positionner par rapport à ses homologues et néanmoins rivaux.
Ce qui est vraiment énervant pour un DRH, c'est quand ce sont les syndicalistes CGT ou Sud qui parlent en premier.
Car en prenant la parole en premier, on a le champ libre pour radicaliser les positions dès l'origine et amener les autres organisations à devoir surenchérir.
Pour contrer cela, il vous faut travailler
au plan de table.
Celui-ci n'est jamais
innocent.
Car
l'organisation qui fait face à la délégation patronale bénéficie d'un avantage logistique.
Si jamais la salle est envahie, sachez aussi qu'un bon DRH doit rester calme. Surtout,
ne rien promettre ou accepter sous le coup de l'émotion, car si la négociation n'est pas un jeu, elle n'en garde pas moins une dimension théâtrale.
L'autre méthode de crevard que peut vous apprendre Jean-Luc, c'est de faire croire qu'en tant que DRH, vous avez un pouvoir de négociation, alors qu'en fait, vous êtes aux ordres du patron. Ça marche, il l'a testé lui-même.
Lors des négociations salariales, je me servais de longues suspensions de séance jusqu'à une heure pour laisser croire que les discussions étaient ardues de mon côté et pour les laisser mariner un peu. Je revenais ensuite avec une proposition qui avait été envisagée précédemment.
On l'aura compris, à l'Institut supérieur du travail, on aime la démocratie interne dans l'entreprise, mais pas trop.
Méfiez-vous de la démocratie directe.
Un tableau résume particulièrement bien le cauchemar ultime du DRH selon l'IST. Il présente
les 5 phases de la prise de pouvoir des syndicalistes sur l'entreprise.
Bref, il décortique le processus par lequel des foutus gauchistes peuvent finir par former un comité de grève et des salariés par désigner démocratiquement des représentants auxquels se soumettent les représentants du comité d'entreprise. À l'IST, on vous apprend ainsi à vous méfier de ces
mécanismes de contrôle des foules
et de ces instances directes qui justifient
toutes les formes de passage à l'acte. Émanant toujours d'une assemblée générale du personnel, le comité se propose de dépasser les clivages syndicaux et se constitue à partir de l'élection de délégués des salariés par un vote direct et à main levée. Devenu tout puissant sur les salariés, le comité de lutte peut alors s'attaquer au pouvoir hiérarchique, par la culpabilisation, en provoquant le doute, voire par l'intimidation en usant de la menace. Il s'agit d'une part de priver la masse des salariés d'un lien hiérarchique, de proximité qui pourrait subsister, et d'autre part de remplacer l'encadrement par une hiérarchie parallèle issue du comité de lutte, qui se pose comme le seul pouvoir légitime.
Si malgré toutes ces recettes et formations, vous ne parvenez toujours pas à mater vos salariés, vous pouvez envisager que votre comité d'entreprise sollicite directement l'IST pour un audit. En dernier recours, les plumes de l'IST sauront alors trouver les mots justes pour casser le moral des plus réfractaires. Ce fut notamment le cas lorsque la direction de Disneyland Paris a fait appel à ses vrais spécialistes du dialogue social pour rédiger un rapport sur les compétences de ses syndicalistes maison.
Les compétences des partenaires sociaux ne correspondent pas à ce que la direction peut attendre d'une entreprise comme Euro Disney.
On résumait d'emblée les fins analystes de l'IST. Il s'agit d'extraits du rapport cité par Le Parisien du 4 décembre 2013. Puis ils ont pointé pêle-mêle dans un rapport ordurier
le faible niveau des représentants du personnel,
dont la plupart ont
un niveau de culture générale très bas,
voire souffrent de
problèmes d'expression, d'orthographe, de compréhension.
L'intérêt de faire des audits aussi outranciers est simple. Il permet de repérer sur qui l'encadrement pourra enfin s'appuyer. Dans ce cas d'espèce, si la CFDT fut finalement
scandalisé par ce torchon
qui présente les syndicalistes comme des analphabètes, la direction de Disneyland a réussi à trouver un représentant de FO sur qui compter, celui-ci ayant publiquement affirmé l'intérêt
d'accepter la critique et le regard extérieur qu'offre ce rapport susceptible de faire avancer les choses.
Après un tel rapport, vous pourrez en tant que patron proposer un plan de formation sur les relations sociales à vos salariés organisé par l'IST, bien sûr.
Allez, on se fait une nouvelle pause musicale sur Radio Canu, émission Angle Mort, avant la fin de ce texte consacré à l'Institut supérieur du travail. Et donc, je vais lancer, ça va être un petit peu plus péchu que ce qu'on a pu entendre jusqu'ici. Je vais lancer Alcatraz avec le titre. Alors attention, j'aime bien le titre. Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte, vive la sociale.
forte dose de mélanine est la seule mise en cause. Souvent vue comme mauvaise lors des bavures commises et sur qui pèse en temps de crise de grandes mises en parenthèse. Je n'y peux pas grand chose si nous ne sommes pas en phase.
Voici... Toujours à l'écoute de Radio Canu pour la conclusion. Donc de cet article tiré du site internet Terrain de lutte, un article qu'on doit à Patrick Engolin et Emily Wright intitulé « L'Institut supérieur du travail ou le syndicalisme expliqué au patronat ». Un musée de la prose réactionnaire. Peu d'officines patronales peuvent ainsi se targuer de maintenir la tradition du discours anticommuniste des années 1950. C'est bien là la marque de fabrique de l'IST, Institut supérieur du travail, une maison où, malgré la chute du mur et les évolutions géopolitiques de ces 30 dernières années, flotte toujours dans l'air comme une odeur de guerre froide. Paradoxalement, cette ambiance est rassurante pour certains et leur rappelle leurs jeunes années. En décembre 2006, l'Association pour la liberté économique et le progrès social, dont Claude Armel a été l'un des initiateurs et le secrétaire général, donc on rappelle hein, Claude Armel qui est le fondateur de l'IST et qui était associé durant la guerre à des collaborationnistes. Donc Claude Armel a été l'un des initiateurs et le secrétaire général, célèbre en 2006 ses 40 ans dans les locaux de l'UIMM en présence de personnalités très appréciées hein, dans notre émission, telles que Alain Madelin, ancien ministre, et Hervé Novelli, alors député, mais en 2008 secrétaire d'État chargé des entreprises. C'est toute l'histoire de cette nébuleuse antisyndicale qui est alors célébrée dans un même mouvement. L'Institut d'Histoire Sociale de Nanterre, bébé de Georges Albertini et Boris Souvarine. Boris Souvarine, on l'a pas encore évoqué ici, c'est pour le coup quelqu'un d'assez... une personnalité assez complexe, un ancien du PCF qui est devenu critique du stalinisme et qui lui-même, je crois, était situé plutôt à gauche, avait quand même une ouverture sur les marxistes anti-staliniens, hein, et notamment par sa revue, du coup, La Critique Sociale, qui s'ouvrait à des marxistes assez intéressants. Mais il a de plus en plus été accoquiné à des anticommunistes de droite et voire d'extrême droite, dont Georges Albertini, ce qui a favorisé sans doute l'usurpation de cet institut d'histoire sociale de Nanterre qu'il avait fondé. Donc, je disais, voilà, c'est l'histoire de cette nébuleuse antisyndicale qui est alors célébrée en décembre 2006. L'Institut d'Histoire Sociale de Nanterre, bébé de Georges Albertini et de Boris Souvarine, l'IST et les contribuables associés, donc ça c'est une asso qui se veut le lobby du contribuable auprès des pouvoirs publics, se sont tous recueillis autour de la mémoire d'Armel, leur vrai père spirituel. De quoi se rappeler le bon vieux temps, mais aussi de quoi rappeler à ceux qui financent ces boutiques que si du chemin a été parcouru, la longue marche vers la suppression des structures de défense des salariés n'est pas encore tout à fait terminée.
Non, du coup, voilà, on en termine avec la lecture de cet article que vous retrouverez donc sur le site terraindelutte.ouvaton.org. Donc, un article qui nous a semblé intéressant parce que finalement, derrière le nom d'Institut supérieur du travail, un nom comme ça qui peut faire penser à une structure portée par des syndicalistes ou de défense des salariés, ben, se cache donc effectivement une
officine patronale.
Voilà, qui a ses traditions dans la collaboration, l'anticommunisme et puis l'antisyndicalisme finalement. Et que ces personnes-là sont des personnes souvent mandatées, experts de ces questions, qu'on va retrouver sur des... dans des émissions
type BFM TV, émissions d'actualité, oui.
Voilà.
Et en faisant passer pour neutre, ce qui est problématique.
Exactement, voilà.
Et on va terminer en se lançant un petit peu de musique donc sur Angle Mort. Là je vous ai calé un petit Joe Strummer and the Mescaleros avec le titre Mondo Bongo.
Périphérie des gens, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres, au point d'impact des colères, à contre-courant envers, et contre toutes les muselières, à la périphérie des gens, au cœur des poudrières, au départ des courts-circuits, au croisement des contraires, au carrefour des massacres.
Thank you. pachinko, you noodle model Paula in the nefarious zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life.
Checkmate, baby!
Allez, Angle Mort, Radio Canu, c'est fini. On vous laisse avec la causerie. On se retrouve la semaine prochaine. On vous laisse avec le titre La Bourse ou la Vie du groupe anarcho-punk français Eyoka.